Le journal d'Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 3 gendarmes tués par un forcené dans le Puy-de-Dôme. L'auteur des coups de feu n'est pas encore maîtrisé, le GIGN est sur place. Les gendarmes intervenaient dans le cadre de violences conjugales. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Les autres titres, Agnès.
Le trafic reprend ce matin entre le Royaume-Uni et la France après un accord conclu hier soir. Accord que va nous détailler Fabien Cazot. Les EHPAD se préparent à vacciner. Dimanche, seuls quelques 10 dizaines de personnes recevront une première dose de vaccin. Les clubs de foot de Ligue 1 et Ligue 2 espèrent une solution très vite après la défection de Mediapro. Enfin, des artistes talentueux, un décor grandiose sur le toit du Châtelet nous offre une parenthèse enchantée, accessible à tous.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, nous irons dans les salles de réanimation de nos hôpitaux. Où en sont les urgences en France? Nous en parlerons avec la directrice du SAMU du Val-d'Oise, Agnès Ricaribon. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'historien Georges Vigarello. Il publie une histoire de la fatigue. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Le bilan est très lourd ce matin. 3 gendarmes tués, 1/4 blessé et le forcené n'est toujours pas maîtrisé. Le drame s'est noué cette nuit dans un hameau isolé près de Saint-Just, dans le sud-est du Puy-de-Dôme, sur fond de violences intrafamiliales. Les toutes premières précisions avec Adrien Serrière.
Les gendarmes de la compagnie d'Ambert ont été appelés peu après minuit pour une intervention dans le cadre d'une affaire de violence familiale. En arrivant, ils trouvent une femme réfugiée sur le toit de sa maison. 2 gendarmes tentent de s'approcher pour lui porter secours, mais un homme ouvre le feu. L'un des 2 gendarmes est mort. Le second, blessé à la cuisse, a été évacué à l'hôpital d'Ambert. L'auteur des coups de feu a alors mis le feu à sa maison et de nouveau tiré sur les gendarmes, tuant 2 autres militaires. Au moins 7 membres du GIGN sont arrivés en renfort. Ils sont toujours sur place. De même que les pompiers qui tentent de maîtriser l'incendie. La femme qui s'était réfugiée sur le toit a pu être mise en sécurité. L'homme qui a tiré n'est lui toujours pas maîtrisé. Il a 48 ans. Il est connu de la justice pour des faits liés à des problèmes de garde d'enfants.
Et un poste de commandement a été installé à la mairie de Saint-Just. Nous reviendrons donc sur la mort de ces 3 gendarmes dans nos prochaines éditions. La liste des victimes potentielles de Michel Fourniret ne cesse de s'allonger. Déjà condamné à perpétuité pour 7 meurtres de jeunes filles, mis en examen dans 3 autres disparitions, dont celle d'Estelmouzin. Il est à présent soupçonné d'avoir enlevé, séquestré et tué Lydie Loger, une jeune femme de 29 ans, disparue il y a 27 ans dans l'Orne. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais des traces d'ADN ont été prélevées dans la camionnette de Michel Fourniret lors de nouvelles investigations. En bref, encore la remise en liberté de 2 des policiers placés en détention provisoire il y a 3 semaines après les violences à l'encontre de Michel Zecler. Les 2 fonctionnaires ont l'interdiction d'exercer leur profession. Ils ne peuvent pas détenir d'armes et doivent respecter un contrôle judiciaire strict.
Il est 7h03, les premières voitures en provenance de Douvres ont débarqué dans la nuit sur le port de Calais.
Une fourgonnette et 10 de véhicules de tourisme avec des passagers sont arrivés en France. Les premiers Eurostars sont également attendus dans la matinée. Reprise progressive donc du trafic entre la France et le Royaume-Uni grâce à un accord conclu hier soir. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
48 heures après la fermeture des frontières, le trafic peut donc reprendre avec une condition de taille: un test négatif de moins de 72 heures.
Oui, et tout va être fait outre-Manche pour accélérer le plus possible la cadence de ces tests. Le compte à rebours d'ici Noël, demain soir, est plus que lancé. Des sites sur lesquels les conducteurs automobilistes ou transporteurs routiers pourront se faire tester vont être installés dans les prochaines heures par le gouvernement britannique. Il s'agira de tests antigéniques sensibles à la variante locale de la Covid, dont le grand avantage est de donner un résultat en 30 minutes. S'il est négatif, feu vert pour embarquer vers la France. S'il est positif, un test PCR pourra être réalisé pour confirmer ou infirmer le résultat. S'il est confirmé positif, le conducteur sera mis à l'isolement 10 jours sur le sol britannique. Voilà les termes de l'accord conclu hier soir, peu avant minuit, avec la Grande-Bretagne, après des discussions avec l'Union européenne. L'objectif maintenant, c'est que la situation commence à se décanter très progressivement à partir de ce matin. Il y a pour l'heure environ 3000 camions bloqués dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre. en attente de pouvoir embarquer à Douvres, où le port vient donc à peine de rouvrir.
Merci Fabien Cazot. Reprise du trafic également du Royaume-Uni vers la Belgique et les Pays-Bas. En revanche, l'Allemagne et l'Espagne maintiennent les restrictions de circulation jusqu'au 6 janvier. Et puis la branche européenne de l'OMS va se réunir ce matin pour discuter des stratégies à mettre en œuvre face aux variants du coronavirus. En France, à 4 jours des premières vaccinations, la logistique se met en place. Les vaccinations dimanche seront symboliques. 2 ou 3 établissements seront concernés, a précisé hier soir le ministre de la Santé. 1 près de Paris, 1 autre en Bourgogne-Franche-Comté et éventuellement 1 troisième. Quelques dizaines de résidents donc. Il faut dire que tous les établissements ne sont pas prêts. Alice Cachaner s'est rendue dans un EHPAD du Loiret à Bonne-la-Rolande. Reportage.
1 médecin pour 230 résidents. Une chose est sûre, dans cet EHPAD public, la vaccination ne commencera pas ce dimanche.
Non, pour l'instant, on n'est pas prêt du tout.
Diego Clévez est l'unique médecin gériatre de cette structure et c'est lui qui va devoir informer les résidents sur le vaccin, analyser les contre-indications et recueillir leur consentement.
Il y a des pathologies, des patients qui sont malades. J'ai des comptes rendus à faire, des rendez-vous à prendre, ça va être une charge de travail assez importante. On n'a pas de médecins des villes, mais c'est compliqué.
Compliqué d'autant que certains patients se posent beaucoup de questions.
Bernadette, je suis de 1926, je ne suis pas jeune. Hein. Coronavirus, ça attaque quoi exactement? Les poumons? Ça se donne un à l'autre peut-être, non? C'est contagieux, il y a le vaccin, on va me le proposer. Eh bien, mais je veux bien.
D'autres se montrent plus réfractaires ou suspicieux. Dans sa chambre, Antoinette expose ses doutes à son mari.
C'est pas un vaccin qui vous rend malade, non? J'aurais voulu quand même qu'il y en ait eu de fait avant, moi. C'est parce que les réactions de ce vaccin, hein?
Je pense pas qu'on ait des ennuis avec, au contraire.
Informé, rassuré, enregistré, un travail chronophage et de longue haleine, souligne Émilie Barillet, la directrice de l'EHPAD.
D'autant plus qu'il va falloir qu'on prenne en compte le fait que tous les résidents ne sont pas en capacité de s'exprimer. Donc pour cela, il va falloir qu'on sollicite les personnes de confiance ou les tuteurs à la personne. Donc ça va être très long. Une fois qu'on aura fait tout ça seulement, on pourra envisager la vaccination.
Une vaccination envisagée, pas avant mi-janvier.
Reportage d'Alice Cachaner. Encore près de 12 000 nouveaux cas enregistrés hier, mais un taux de positivité qui continue de baisser à 4,4%. 386 décès ont également été enregistrés. Le bilan global en France est de 61 702 morts depuis le début de la pandémie. En Europe, le seuil des 500 000 morts a été franchi hier. Situation particulièrement alarmante en Allemagne avec 962 décès en 24 heures. Mais c'est l'Italie qui paie le plus lourd tribut. L'Italie qui s'apprête à vivre un Noël reconfiné. À partir de demain, de nouvelles restrictions entrent en vigueur au niveau national. Depuis le mois de mai, le pays était divisé en 3 zones. Cette fois donc, les règles sont les mêmes pour tous, mais elles sont tellement compliquées, Bruce de Gelsin, que les Italiens ont bien du mal à s'y retrouver.
C'est en famille que Paola, Sergio et Francesca profitent des derniers moments dehors en se promenant devant les fontaines de la place Navone. Paola, la grand-mère.
C'est notre dernier jour de liberté, car demain tout sera bloqué et on ne pourra sortir que pour des motifs précis. Mais 2 personnes pourront quand même se déplacer d'une famille à une autre.
En fait, il est aussi possible de se déplacer chez des amis une fois par jour, mais pas à plus de 2, sauf avec des enfants de moins de 14 ans. Sergio, le grand-père, ne comprend absolument plus rien.
C'est d'une complexité sans nom, mais c'est très italien. La culture des Bourbons, avec une bureaucratie qui réussit à compliquer les choses les plus simples. Et on ne peut rien y faire. Il faudra 2 ou 3 générations pour que ça change. Faites simple, on ne sort pas, point final.
Pour compliquer encore un peu plus les choses, au milieu des vacances, il y aura 3 jours, lundi, mardi et mercredi prochain, pendant lesquels on pourra sortir, les magasins seront ouverts. Mais pour Francesca, la nièce de Paola et Sergio, cela ne change rien.
Je travaille. Ces 3 jours seront bien remplis. Je travaille en pharmacie. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Je ne peux pas me permettre de prendre des vacances en ce moment. La situation est trop critique.
Et demain, ce sera aussi le retour des attestations. Papier ici, pour justifier tout déplacement. Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et il menace de ne pas ratifier le plan de relance adopté par le Congrès. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
À la suite du journal d'Agnès Subouiran, eux aussi veulent bénéficier de la prime d'équipement informatique.
Les professeurs documentalistes, qui accueillent notamment les élèves dans les CDI, sont pour l'heure exclus de la prime de 150 € que vont toucher en début d'année tous les enseignants et psychologues de l'éducation nationale. Une pétition circule, elle a déjà recueilli plus de 22 000 signatures. Sonia Princé.
Pendant le confinement, les professeurs ont plus que jamais utilisé leur propre équipement informatique. C'est donc pour les dédommager que cette prime leur est attribuée. Christophe Barbeau est professeur documentaliste dans un lycée de l'Académie de Créteil. Il a lui aussi travaillé de chez lui.
comme les autres enseignants, nous avons poursuivi des séquences pédagogiques en cours. Par exemple, la mise en place de radios en ligne, de création de podcasts, la mise en place de découvertes des ressources documentaires pour les élèves, notamment dans les collèges, des projets autour du cinéma, des projets autour de la lecture. Tous ces projets pédagogiques se sont poursuivis pendant le confinement avec l'outil informatique.
Le ministère de l'Éducation nationale explique que cette prime est attribuée aux professeurs devant élèves, un argument incompréhensible pour Catherine Novel, la présidente de l'Association des professeurs documentalistes.
Notre propre ministre ne connaît pas notre métier. Nous sommes enseignants. Nous avons dans nos missions qui ont été redéfinies encore récemment, en 2017, donc la formation à la culture de l'information de la 6e à la terminale. Nous sommes très souvent donc sur de la pédagogie de projet, nous sommes sur de la co-intervention avec nos collègues de discipline. Nous sommes tout le temps donc devant nos élèves.
Un rendez-vous est prévu au ministère début janvier pour demander à élargir cette prime aux 12 000 professeurs documentalistes.
La suite du feuilleton Mediapro, le groupe sino-espagnol qui refuse de payer, va continuer de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'à fin janvier, le temps que la Ligue de football professionnel trouve un nouveau diffuseur. Et le plus tôt sera le mieux, Alexandre Vaux.
Le président de l'Olympique de Marseille, par exemple, quatrième de Ligue 1, s'exprime sans détour. Jacques-Henri Hérault parle de trahison de Mediapro qui vient s'ajouter à la situation sanitaire.
C'est une catastrophe parce qu'on vit une double peine. En fait, on est un théâtre qui paye ses acteurs à jouer dans une salle vide et avec un diffuseur qui ne paye pas ce qu'il doit nous payer. C'est 65% du chiffre d'affaires qui disparaît. Ça fait beaucoup de millions.
Entre 15 et 20 millions d'euros en moins cette saison, selon certains clubs, rien que pour la fuite de Mediapro. Il faut donc négocier vite et bien, prévient Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du Collège Ligue 1 au sein de la LFP.
Le contrat avec Mediapro était à 1,2 milliard. Nous avons 600 millions qui sont actés, il reste 600 millions dans la balance, il faut trouver un juste prix pour que ces 600 millions qui sont en négociation n'appauvrissent pas trop le football et permettent à tous les clubs de survivre.
Même si certains réfléchissent déjà à renégocier les salaires des joueurs après les fêtes ou encore à vendre, si possible, au mercato de janvier.
Enfin, une vue imprenable sur Paris et où, malgré le confinement, les artistes n'ont jamais cessé de se produire. C'est au Théâtre du Châtelet où, hier soir, Yael Naïm, Nous Doyons, Suzanne ou encore Alicia ont joué pour un spectacle retransmis sur le web. Mathieu Culeron.
Sur son toit qui domine tout Paris, sous le dôme de sa salle magnifique, le Théâtre du Châtelet ouvre ses portes aux artistes pendant le confinement. Toute musique représentée, une mission de service public pour Jérôme Chaumont, directeur adjoint du théâtre.
360 degrés, si on regarde sur une carte, on est vraiment au point central de Paris. On est un peu loin de la rumeur, on l'entend vaguement. Mais on est un peu en lévitation au-dessus de la ville. Le concept du Châtelet sur le toit, après la crise sanitaire, continuera et ce sera toujours la vitrine de la diversité des musiques qu'on accueille ici au Théâtre du Châtelet.
Yael Naïm joue de la guitare sur le toit devant la Sainte-Chapelle. Elle qui a sorti un nouveau disque pendant le premier confinement et son nouvel EP pendant le deuxième. Une frustration qui a donné des idées à la chanteuse.
C'est l'envie de mettre l'art dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés pour l'art à la base. Donc se retrouver sur un toit par exemple, ou dans une piscine. Et je pense que ça correspond vraiment à notre époque aussi, le fait de sortir des cloisons, de décloisonner les choses. Moi j'aime créer quoi qu'il se passe. C'est un peu comme ça que je m'apaise en général, que je digère ce qui m'arrive.
Moment magique, disponible pour tous, le Châtelet se réinvente en digital, en attendant le retour du public pour une communion irremplaçable.
À voir et à revoir sur le site du Théâtre du Châtelet. Merci Agnès Soubiran.